Bienvenue dans Négatif, le podcast qui donne la parole aux créateurs et créatrices d'images et de sons. Je m'appelle Thibaut Elie et je suis aujourd'hui avec Maxime Rodriguez pour un nouvel entretien consacré à un film documentaire. Après le film d'archives de Sergei Loznitsa sur les funérailles d'État de Staline, c'est un documentaire étonnant sur l'ascension contrariée d'un militant du Front National en Picardie que nous allons découvrir. Bonjour Mathias Théry.
Bonjour.
Vous êtes le co-réalisateur, avec Étienne Chailloux, du film La Cravate, sorti en salle le 5 février 2020. Vous y racontez l'histoire de Bastien Régnier, 20 ans, militant du Front National à Amiens lors de la campagne présidentielle de 2017. Bien vu des cadres du parti, il rêve d'ascension, participe à la création de la chaîne YouTube de Florian Philippot et continue à militer pour Marine Le Pen sur le terrain. Un double portrait, celui du Front National et de ce jeune Bastien, au passé trouble, que vous explorez pas à pas avec lui. Une première question, vous avez repéré Bastien lors d'un tournage de documentaire sur des primo-votants à la présidentielle. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire le personnage principal d'un de vos films ?
Eh bien, lorsque on filmait Bastien à l'occasion de ce premier film pour la télévision, déjà une relation s'est tissée entre nous, ce qui est quelque chose de primordial et nécessaire pour pouvoir tourner un film long. Et puis, surtout, c'est le moment où il voit sa vie changer et qu'il part à la rencontre des grands du parti et qu'il commence à être initié par Eric, son jeune supérieur, à l'art d'être un petit politicien. Et donc, on se dit, là, il est en train de se passer quelque chose devant notre caméra de super intéressant. Il faut qu'on reste. On demande à Bastien la permission de continuer à le suivre pour un projet de cinéma. Enfin, en tout cas, un projet plus long et plus intime. Il accepte. Et voilà.
Donc, à ce moment-là, vous dépassez le tournage tout simplement du militant pour aussi aller voir d'autres aspects de sa vie.
Oui, c'est-à-dire que très vite, on comprend que ce qui nous intéresse, c'est pas... c'est de faire un film sur quelqu'un. Et pas que sur un aspect de sa personnalité qui pourrait être le militant qui est en lui. Et on a l'intuition que la politique, elle a des répercussions, voire des racines, dans la vie intime des gens. Et que pour comprendre le politique, il faut peut-être comprendre l'intime.
Donc vous avez cherché, à travers cette idée initiale que vous aviez, d'ausculter Bastien et de reconstituer sa trajectoire ?
On a fait plusieurs choses. Oui, on a essayé en tout cas de raconter au mieux la période que l'on a filmée. Parce que c'est une période où il lui arrive pas mal de choses assez différentes. Il passe par beaucoup de sentiments différents. Et donc, notre objectif était d'essayer de les transcrire le plus fidèlement et le plus précisément possible. Et aussi de pouvoir replacer la vie qu'il vit en 2017 dans sa vie en entier. Et donc, aussi de pouvoir comprendre d'où il vient, qu'est-ce qu'il a vécu avant, qu'est-ce qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Etc. Parce qu'il me semble que sur des sujets aussi complexes que l'adhésion de la jeunesse au parti d'extrême droite, il faut être très complet.
Est-ce que pour vous, Bastien était l'archétype d'un jeune militant frontiste ?
Pas du tout. Au départ, pas du tout, oui et non. C'est-à-dire que nous, on ne cherchait pas à retrouver un jeune représentatif de la jeunesse en général de ce parti. Surtout pas, puisqu'on n'est pas là pour faire de la sociologie ou même du journalisme. Donc on est intéressé par le fait que Bastien est aussi unique. C'est pour ça aussi, je pense qu'on a été intéressé par lui, parce qu'on voyait en lui un vrai personnage de film ou même de personnage de roman avec ses complexités, ses contradictions. Et donc il a des aspects de sa personne qui sont complètement... à l'inverse du profil type du votant pour le Front National dans cette région, dans le nord de la France, où c'est plus un électorat d'ouvriers ou de gens qui se sentent délaissés, qui sont économiquement pauvres et un peu victimes d'un système économique, on va dire. Alors que lui, ses parents ont de l'argent, il ne souffre pas du déclassement, des choses comme ça. Donc il est unique et en même temps il partage d'autres choses avec tout ce peuple là qui sont la colère, le ressentiment, il souffre de sentir méprisé, de sentir mis à part, etc. Et donc sous ces aspects là on reconnaît tout de même des choses que l'on voit chez les autres militants.
Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans les premiers jours du tournage avec lui, quand vous avez commencé à tourner le portrait, le documentaire sur lui et pas juste sur le sujet que vous aviez à la télévision? Et comment s'est passé le début du tournage de ce documentaire sur lui?
On ne fait pas le tour d'une personne en quelques semaines. Je pense que c'est le travail au temps long qui permet de pouvoir aller en profondeur. Surtout qu'on avait au début affaire tout de même à un militant qui était un peu maître des éléments de langage du parti, on va dire. Il a même été validé par le parti en disant « Toi, tu seras à la hauteur pour bien nous représenter ». Donc, pour le temps de dépasser la façade et la communication qu'il met en place...
Y compris vis-à-vis de vous ?
Oui, y compris vis-à-vis de nous. Alors quand même, très tôt, on sent qu'il est intéressé à discuter avec nous, ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, il est intéressé à discuter avec nous et il est touché, je pense, par le fait qu'on s'intéresse à lui. Alors que... certains politiciens s'en fichent complètement de ce qu'on peut penser d'eux. Ils sont juste là pour faire passer un message, point barre. Donc c'est assez progressivement qu'on en a appris plus sur lui. Et plus on en apprenait, plus on arrivait à faire le tri entre ce qui était de l'ordre de la communication récitée et ce qui était plus sincère. Et lui-même en apprenait sur nous. Nous, on communique beaucoup avec Étienne quand on tourne nos films, avec les gens qu'on filme, sur nos intentions. Parce que plus ils nous comprennent, plus nous, on arrive à les comprendre. Enfin, je pense qu'il y a de la réciprocité... nécessaire. Donc on lui disait, nous, notre objectif, bien qu'on ne soit pas du tout dans ton camp et qu'on pense que ton parti est dangereux, notre objectif, c'est de te comprendre. C'est d'essayer de comprendre ta trajectoire, etc. Donc on était... Donc nos discussions portaient là-dessus. On disait, raconte-nous ton histoire, raconte-nous par où tu es passé, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as ressenti. Donc on a fait de nombreux entretiens pendant le tournage, des entretiens non filmés, et qui nous ont servi, qui nous ont nourri,
mais
ont
nourri
notre film. Oui, enregistré, mais non filmé. Enregistré surtout, enfin, avec un deal entre nous qui était, on va pas les utiliser dans le film, parce que l'idée n'était pas de lui faire peur sur le moment. L'idée pour nous était de, lorsque nous allions écrire le texte qui va servir au film, pouvoir être très précis sur les mots et pour pouvoir utiliser ces mots lorsque on le ferait penser ou parler, qu'on soit fidèle à son vocabulaire et à ses mots à lui. Et donc, pour finir, c'est un travail très long, quoi. Et finalement, même, je crois que c'est au bout de 2 ans et demi de travail que l'on découvre les derniers éléments qui nous semblent clés pour comprendre sa trajectoire. Des choses qu'il nous a cachées pendant longtemps.
Justement, les éléments qu'il vous a cachés et que vous avez appris qu'après plusieurs années d'enquête, d'études et de réflexion, c'est au final quelque chose qui prend une grande place dans le film. Au point que ça en devient presque un cliffhanger, ça devient un point culminant du film. À quoi est-ce que le film il aurait ressemblé si vous n'aviez pas fait ces découvertes?
Je ne sais pas à quoi il aurait ressemblé, mais il n'aurait pas été comme il est aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on a pensé à un dispositif qui est assez réglé. Et finalement, ce qui se passe pendant la lecture du texte, donc c'est ça, notre dispositif consiste à lui donner le texte de la voix off, à lire devant la caméra, et il peut suivre le récit en même temps que le spectateur, et il peut arrêter le récit, etc. Ça, c'est le dispositif assez réglé. Mais lui, il le dérègle complètement en allant plus loin que le dispositif, en disant, je ne suis pas juste là pour valider, je suis là pour... Finalement, je vais vous en dire beaucoup plus. Et ça chamboule notre regard sur lui, ça chamboule le montage du film, ça chamboule l'écriture du texte qu'on lui donne, ça nous oblige à repenser les choses et donc à repenser le montage du film autrement. Puisqu'on découvre, en gros, on découvre quelque chose qui nous semble clé et qui fait que pendant toute une période, on n'avait pas tous les éléments pour bien le comprendre.
Pour resituer, en fait, le matériau de base du film, c'est un récit que vous avez écrit sur l'histoire de Bastien, que vous lui soumettez à la lecture et que vous filmez quand il le lit, que vous lisez en voix off et que vous les illustrez par des images que vous avez tournées.
Ouais, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait, c'est assez simple. Hein. En gros, je peux vous raconter très vite les étapes de fabrication. 8 mois de tournage. Pendant 8 mois, on le suit pendant les élections présidentielles. Ensuite, et on fait ces fameux entretiens. Ensuite, pendant presque 1 an, on écrit le texte qui deviendra la voix off du film.
C'est combien de pages, ce texte ?
Oh, c'est 30aine de pages, je crois. C'est finalement pas si épais que ça, mais il fallait qu'on soit très très précis. Et puis, pour tout vous dire, même on prémonte un petit peu des séquences pour écrire tout de même en voyant comment est-ce que la voix parle avec les images. Ensuite, ce texte, on lui donne à lire devant la caméra. On a une discussion autour du texte à ce moment-là. Et ensuite, on retourne au montage, cette fois-ci on retourne au montage en devant rectifier un petit peu la voix parce qu'il nous a amené de nouveaux éléments. On monte le film et ensuite on lui montre le film. On le filme en train de regarder le film parce que sa validation à toutes les étapes est très importante pour nous. Et la dernière image du film, c'est lui en train de découvrir le film pour montrer que... Et nous qui disons qu'il valide le film et il est d'accord pour que ce film existe et sorte, quoi. Voilà.
Ça, c'est votre dispositif.
Ça, c'est le dispositif.
Et c'est intéressant parce qu'il prend le contre-pied des documentaires politiques traditionnels où on va suivre de façon assez formatée avec une voix off, des interviews face caméra, ou des documentaires qui sont plus immersifs, ce qu'on appelle le cinéma vérité, comme ceux d'Yves Jolland, par exemple, avec François Hollande ou Georges Frêche. Est-ce que vous avez voulu chercher une troisième voie, expérimenter quelque chose qui n'avait pas encore été fait en termes de documentaire politique ?
Oui, on a voulu expérimenter quelque chose, alors pas forcément parce que ça n'avait pas été fait, mais parce que cet exercice-là est un exercice très particulier. C'est-à-dire que filmer des hommes politiques est un exercice dans lequel on ne peut pas ignorer qu'il y a des jeux de mise en scène et de manipulation de part et d'autre de la caméra. C'est-à-dire qu'un politicien, c'est quelqu'un qui cherche à se donner une image, toujours. Un réalisateur, c'est quelqu'un qui va écrire une image, toujours. C'est jamais neutre. Et donc dans cet exercice vraiment particulier, donc il y a une tension entre les deux en tout cas, dans cet exercice particulier, il faut réussir à trouver quelque chose, un moyen de fabriquer un film où ce n'est pas cette tentative de prise de pouvoir de l'un ou de l'autre qui au final soit l'intérêt du film. Il y a des gens qui diront dans tel film le politicien il s'est bien fait avoir parce qu'au final le réalisateur il le montre d'une manière péjorative, ou bien à l'inverse il y en a qui disent le réalisateur s'est bien fait bananer, le mec arrive à faire sa pub. Il n'y a aucune distance réflexive sur ce qu'on est en train de regarder. Donc ce qu'on a essayé de proposer là, c'est d'assumer ces jeux de pouvoir, dire, puisqu'en plus on est face à des politiques qui sont très particuliers, le Front National sont les rois de la communication ces dernières années, parce que leur travail, c'est ce qu'ils appellent la dédiabolisation, donc c'est vraiment un travail de communication pour changer leur image et masquer certaines choses qu'ils n'ont pas envie de montrer. Donc avec le dispositif qu'on met en place, c'est-à-dire le fait qu'on ait cette voix qui ne soit pas le nez collé dans ce qu'on est en train de vivre, mais qui soit en recul, en train de se dire « Regardons ce qu'il est en train de se jouer sous nos yeux. » Plutôt que, voilà, on est dans un meeting, au lieu de se dire « Ah, qu'est-ce qu'il dit derrière son micro ?» Quelles sont les techniques pour eux de parler ? Comment est-ce que les gens reçoivent le message ? Comment est-ce qu'ils s'y prennent pour faire un meeting ? Ils se font à manger, ils créent de la convivialité. On analyse un peu tout ça, quoi. Et donc, d'un côté, on montre assez clairement comment est-ce que les politiciens sont en train de faire de la dédiabolisation à tout va. Et on n'est pas dupe, on ne se laisse pas faire par cette dédiabolisation. Mais de l'autre, donc Bastien fait partie de ces politiciens. On sait que ce garçon rêve d'avoir une bonne image, quoi, même pour des raisons intimes. Et de l'autre côté, on montre aux spectateurs quelles sont nos manières de faire aussi et nos armes. Et on assume... par le montage et par l'utilisation de la voix off, on assume que faire un film documentaire, c'est toujours fabriquer un récit. Il ne faut pas se leurrer. Même dans le cinéma vérité, le point de vue, le choix de qu'est-ce qu'on filme, de comment est-ce qu'on le filme et de comment est-ce qu'on le monte, c'est décider de dire ce que je vous montre, c'est beau, c'est pas beau, c'est critiquable, etc. Sauf que ça, on l'assume à mort. On dit bah oui, avec notre voix off, on a le pouvoir, on montre au spectateur même en début de film un peu quels sont les éléments, on lui montre comment on fait, quoi. On dit, vous voyez, la voix off, c'est un texte qui est écrit, c'est écrit par nous, on prend les images de eux, regardez, on coupe le son, on met la voix à leur place, parfois on rallume le son, on montre qu'ils peuvent parler, on montre vraiment nos manières de faire, quoi, et toutes les armes que l'on a nous aussi. Ensuite, on revoit dans le film comment est-ce que chacun essaye de, avec ses armes peut-être, de se raconter comme il peut, quoi. C'est-à-dire comment est-ce que nous on essaye d'être quand même un peu critique et comment est-ce que lui il essaye quand même d'être un peu sympa. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif, il est un peu mis à mal finalement dans le film, parce que Bastien nous surprend, ne correspond pas au stéréotype qu'on a dans la tête, nous-mêmes on se laisse un peu déborder. Y a des choses comme ça. Des moments où on est mauvais, des moments où on sort de notre du rôle qu'on s'est donné dans le dispositif pour le secouer, lui dire mais tu vois pas que c'est violent, et on se comporte un peu de manière malhabile avec lui, parce qu'on pense que finalement ce qui est le plus intéressant pour le spectateur, c'est de regarder comment est-ce que on essaye de créer un dialogue entre personnes qui ne se comprennent, enfin qui ne sont pas dans le même camp. Et donc, est-ce que l'objectif du film, c'est de dire à la fin de tout ça, il y a un gagnant ou il y a un perdant ? Je pense que c'est pas intéressant. Et donc, l'objectif, c'est plutôt de dire, voyons comment est-ce qu'on essaye de nous rapprocher d'une forme de vérité ou de sincérité derrière cette comédie de la communication qui est jouée par lui et qui est aussi jouée par nous, quoi. Et d'ailleurs, un des moyens qu'on a trouvé, c'est de dire, au lieu qu'on va discuter en s'affrontant politiquement, ce qui équivaut à reproduire un débat télévisé, on va dire, eh bien, on lui dit, non, passons par un médium qui est l'écrit, qui est ce livre qu'on te donne, qui est notre vision de toi. Et toi, tu vas nous dire si tu t'y reconnais, et tu vas la critiquer, cette vision. Et on va voir ce que c'est une expérience, voyons si ça crée quelque chose.
Est-ce que du coup, c'était une forme qui était aussi utilisée pour éviter de contaminer le sujet, et que par exemple Bastien au fil du temps perde un peu des positions un peu trop radicales ou un peu trop engagées, ou commence à perdre la ligne, on va dire?
Bah, je sais pas, parce qu'en même temps, est-ce qu'il l'a vraiment? C'est finalement avec la voix, c'est nous qui sommes, enfin avec le texte, c'est un peu nous qui sommes tout de même pas mal aux commandes. On aurait pu lui proposer lui-même un contre-texte, ça aurait été intéressant ça, savoir. C'est un peu ce qu'on lui demande de faire à l'oral, quoi. Mais en tout cas, il y a un effet auquel on ne s'attendait pas complètement, c'est que lui, il a décidé de changer de ligne. C'est-à-dire qu'en début de... pendant tout le tournage même de la période présidentielle, lui, il est dans son rôle de militant face à la caméra. Et il veut être le militant. Et face au texte, comme on décide de le raconter entièrement et de raconter plus que ce qu'il récite en tant que militant, il se passe quelque chose, c'est qu'il se dit, je crois que ça me convient mieux d'être considéré comme une personne entière plutôt que juste comme un militant. Et donc, il décide de dire ce que le parti, normalement, lui interdit de dire. Donc, il raconte les batailles internes, les frictions, qui le dégoûtent un petit peu dans le parti et qu'il voit. Ça, il décide que ça peut exister, que c'est plus intéressant pour lui d'être considéré en tant que personne que en tant que politicien, quoi. Donc, il baisse les armes du... Enfin, il décide de pas jouer le jeu de la com du politique pour aller plus loin. Et donc, ça, c'est une prise de risque de sa part. Parce qu'il peut se faire attaquer par le parti, il peut se faire réprimander, il peut se faire virer, enfin, tout plein de choses. Mais humainement... l'homme qu'on a en face de nous, quoi, préfère jouer cette carte-là plutôt que de continuer à être juste le simple militant. Ça, c'est un effet intéressant. Ça, c'est un effet documentaire, quoi, je pense. C'est une expérience humaine qui fait que les gens, face à la caméra, décident de changer de ligne, de changer de route. Pourquoi ils le font ? Il faut se poser ces questions, quoi. Moi, ça m'intéresse, en tout cas.
Est-ce que pour vous, le documentaire... à ce niveau-là, c'était surtout une question de distance.
Le documentaire, c'est toujours une question de distance. Je crois qu'on ne peut pas... C'est ce qui est intéressant par rapport aux fictions, c'est qu'il y a un ingrédient supplémentaire qui est la distance des gens qui filment par rapport aux gens qui sont filmés. Parce qu'il y a forcément une relation qui est en place. Le spectateur qui regarde a toujours en tête que la scène qu'il voit, elle a été filmée... Il y avait une caméra dans la pièce en plus, et une équipe et un regard... qui venait un petit peu perturber ce qui était en train de se passer. Et donc, il y a des endroits où on n'a pas besoin d'interroger cette distance. Il y a des films en immersion ou des films où on s'en fiche un peu de savoir que pense la personne qui est en train de filmer. Et il y a des films où c'est essentiellement... En tout cas, cet ingrédient-là, il est toujours présent. Je ne sais pas, quand Depardon va filmer des paysans, ce qui nous intéresse, c'est aussi c'est le regard de Depardon, c'est la manière de s'exprimer de Depardon, c'est comment est-ce qu'il arrive à trouver un mode de discussion commun avec des paysans. Il y a toujours cette place-là, quoi. Et donc, la relation du filmeur et du filmé est un ingrédient des films documentaires. Et on peut faire varier cette distance. On peut même décider de la réinventer. C'est ce que faisait déjà Jean Rouch, quand il faisait dans ces films, de créer des jeux de rôle entre ceux qui sont filmés et ceux qui filment pour créer des... Et donc ça donne au final à l'écran des expériences filmées, des expériences dans le sens du vécu, quoi. Des vrais moments vécus entre les gens qui sont assez authentiques. Ça me plaît bien.
Dans quelles conditions financières, logistiques, vous avez tourné ce film ?
Alors, on a tourné dans des conditions très compliquées. C'est-à-dire que au moment où on commence à tourner, on dit aux producteurs avec qui on a l'habitude de travailler qu'on a envie de faire ce film-là. Ils nous disent « c'est pas facile, mais allons-y ». À partir de là, sauf que le film n'a pas d'argent. Donc nous, pour tourner dans l'urgence, on investit dans du matériel, caméra, micro. On remet notre matériel à jour, Étienne et moi, donc sur nos fonds propres. Et ensuite, avec les producteurs, on va à la recherche de financement. Et au final, toutes les démarches qu'on a faites auprès des télévisions et auprès du CNC sont avérées ratées. C'est-à-dire qu'à chaque fois,
vous les avez fait à quel moment?
Alors,
ces démarches,
ça a commencé pendant le tournage. Nos producteurs nous expliquaient que France 2 était intéressé. Il y a une petite case sur France 2 à minuit qui permettait de pouvoir lever un peu des financements. Mais nous, on disait à nos producteurs, on veut aller au cinéma. Donc d'accord pour aller à la télévision, si on a le feu vert aussi pour aller à la salle en même temps. Ça avait l'air de se faire. Et puis quelques mois plus tard, en fait, ils nous ont dit, ah bah finalement, France 2, ça ne les intéresse pas. Ils veulent pas parler du FN, c'est un sujet qui ne les intéresse pas. Et ensuite, on a eu plusieurs retours comme ça, venant de la télévision, disant c'est pas un sujet pour nous. Et quand on a été chercher des bourses du côté du CNC, on nous a dit intéressant, mais risqué. Et à chaque fois, on a passé un peu toutes les étapes devant les commissions pour arriver à la fin à une situation où on nous disait bah c'est pas mal, mais si vous vous plantez, on veut pas être responsable avec vous des dégâts que peut faire un film comme celui-ci. Donc au final, on a fait le film sans argent, bénévole. Les producteurs ont défrayé un petit peu des choses. Ils ont quand même sorti quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros pour payer les quelques personnes pour la post-production ou défrayer les voyages ou des choses comme ça.
Vous avez tourné seulement à deux ?
Ouais.
Donc qui était en caméra et l'autre le son ?
Ouais. Un caméra, un son, ça nous permet de travailler bénévolement. Sans avoir à payer d'autres personnes.
Le dispositif le plus simple
Ah oui, sur le tournage, on est dans un dispositif tout simple. Petite caméra Alpha 7S, petit appareil photo, ou parfois une C300 Canon, mais des caméras très, très manipulables. Du pied.
Passe-partout.
Ouais, après, on avait envie de faire une image quand même assez particulière qui n'était pas, la caméra épaule habituelle du documentaire d'immersion, mais une image qui pourrait accompagner un récit. Comme si on fabriquait le livre d'images d'un roman. Et donc, beaucoup de plans fixes, beaucoup de plans avec du recul pour observer les décors. Et donc, il fallait qu'on puisse être très stable, mais très mobile en même temps. Donc, on avait un monopode pour faire des plans fixes, parfois un pied, mais pas si souvent que ça. Et toujours l'instruction... Le choix de faire des plans les plus posés possibles et puis des séries de plans en disant, voilà, on listait quand on arrivait quelque part toutes les images qu'il fallait faire pour pouvoir bien décrire au spectateur ce qu'on avait sous les yeux, donc des plans larges et aussi plein de détails.
Sur l'aspect plastique, le film est en cinémascope, donc un écran très étiré qui d'habitude est réservé aux westerns ou aux films d'action américains. Et les couleurs sont assez délavées, ternes, froides. Vous n'êtes pas forcément dans les canons du documentaire politique. Qu'est-ce qui a motivé ces choix ?
Le scope, c'est l'idée d'accompagner un récit qui soit un peu un récit romanesque. Parce qu'on voulait tirer le récit de la vie de Bastien vers la sensation que l'on a quand on lit un livre. Et donc pour ça, on trouvait logique d'aller chercher une image qui soit plus une image... de l'ordre de soit de l'accompagnement du roman ou peut-être l'image du souvenir. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Hein. Bastien, il lit le texte et ce texte, c'est le souvenir que nous avons de cette période et c'est le souvenir aussi que lui a de cette période. Donc finalement, le temps présent du film, c'est lui en train de lire le livre et les images, c'est le passé qui ressurgit à son esprit. Donc peut-être ça, c'est aussi l'idée de l'image délavée, qui sont un peu une image de souvenir. Et puis, on ne voulait pas faire une image tape à l'œil. Donc on n'a pas poussé à l'étalonnage les couleurs pour faire quelque chose de super esthétisant. Vous voulez que ça soit assez neutre, quoi, qu'on soit pas dans la fabrication du joli alors qu'on n'en voyait pas l'intérêt. Voilà, donc on fait appel un petit peu au code d'une narration qui est un peu celle de la fiction, bien qu'on ne veut pas du tout faire croire qu'on est dans de la fiction. Ce n'est pas l'idée. On est dans du 100% documentaire et c'est vraiment ça qui nous intéresse. Mais le fait de passer par le récit écrit et le souvenir, je pense que c'est vers là où on va chercher une esthétique qui est l'esthétique de l'histoire, quoi. C'est une histoire que l'on raconte. Tout ça pour pouvoir avoir du recul sur ce qu'on est en train de voir, qu'on soit pas chaud dans l'actualité, chaude comme d'habitude sur ces images-là, mais qu'on soit en recul, un peu comme si tout ça s'était passé il y a plusieurs dizaines d'années et qu'on essaie de comprendre ce qui s'était passé.
Vous avez assuré vous-même avec Étienne Chaillou le montage du film. D'habitude, il y a un monteur qui s'occupe du montage, comme par exemple Yves Jelens, il a une monteuse qui s'occupe de ses films politiques. Est-ce que c'est difficile de monter soi-même son film ?
Non, c'est pas forcément difficile. Nous, c'est notre manière de faire, en tout cas. On vient des arts plastiques, on est habitué à manipuler notre matière, à faire des tests, à travailler longtemps des séquences, à faire des tentatives, des expériences. Et donc ça, on peut pas le faire si on a 3 semaines de montage ou 5 semaines de montage. Quand on a 5 semaines de montage, il faut foncer, quoi. Il faut exécuter quelque chose qui a déjà été établi au préalable, alors que nous, on veut chercher.
Y compris au montage.
Y compris au montage, bien sûr. Ah, bien sûr, c'est un moment essentiel de la fabrication d'un film. Après, le fait qu'on soit deux, ça nous permet de discuter pas mal des séquences, de s'en emparer chacun notre tour, de faire des propositions à l'autre. Je crois que le rôle d'un monteur à côté d'un réalisateur, c'est aussi d'être la personne avec qui on discute, d'être l'altérité qui regarde les choses avec un peu plus de recul. Comme nous, on est déjà deux, on remplit un peu cette fonction-là. On discute beaucoup autour de la table de montage et de pourquoi est-ce qu'on montre ça de telle manière, quel sens ça a, pour aller où, quelle place ça prend dans le film, etc.
Est-ce que toutes les images du film sont issues du tournage ou est-ce que vous en avez retourné avec Bastien à certains moments ?
Non, toutes les images sont issues du tournage, mais bien sûr, comme dans tout documentaire, il y a des images qui sont provoquées. Par exemple, on lui dit aujourd'hui, il n'y a rien de prévu. Est-ce qu'on ne ferait pas un peu des plans où tu marches dans la rue, comme ça, ou des plans où tu vas au café ? Parce que nous, on aura comme on veut raconter ta vie, on a besoin de ce genre de moment. Donc, on va au Laser Quest où il travaille, on fait des plans où il joue, des plans où il est en train de bosser. Et donc ça, c'est des choses qui ne sont pas mises en scène, mais qui sont provoquées. Enfin, on décide de les faire ensemble. Parfois, il entre dans une pièce, donc on est déjà dedans. On lui dit « Attends, on va à l'intérieur avant que tu arrives », etc. Mais ça, c'est un peu des techniques de tournage de documentaires habituelles. Mais voilà. Mais ensuite, au montage, on s'autorise parfois à utiliser un plan où il marche dans la rue qui n'était pas forcément tourné le jour même. Mais on se dit, notre limite d'éthique, on va dire, c'est qu'on se dit, du moment qu'on correspond à la réalité de la journée qu'on raconte, on s'autorise à le faire. Mais c'est sur des plans assez anodins, parce que l'action pure de la journée en question, on ne peut pas la recréer, non.
Et vous n'avez pas, par exemple, reconstitué de moments que vous n'avez pas pu filmer au moment du tournage, et vous n'êtes pas retourné avec lui
ça pour nous que
ça
arrivé...
corresponde au texte ?
Non, ce qui a pu arriver, c'est des choses du type... On lui a demandé de regarder une émission de télé, par exemple, qu'on savait qu'il avait regardé. Mais c'est tout.
Alors, on pourrait croire que votre film est un faux documentaire, à certains moments. On se demande si ce qu'on voit est vraiment vrai, que Bastien est peut-être un faux militant qui joue un rôle devant votre caméra, un personnage créé de toutes pièces. Certains plans sont surréalistes pour un documentaire, ils sont trop intimes, presque. On est dans sa chambre tout le temps, la nuit. Vous le voyez monter les vidéos pour Florian Philippot, par exemple. Alors, qu'est-ce qui nous fait croire finalement à l'histoire de Bastien ?
C'est nous ce qui nous intéresse hein, dans les documentaires, c'est de réussir à sentir qu'on est au bon endroit au bon moment et qu'on s'autorise à aller dans des endroits où on n'ose pas trop d'habitude, par exemple l'intimité, etc. Et donc pour ça, on dormait dans sa chambre, enfin dans son appartement. On le faisait pas tous les soirs, hein, mais on a profité des quelques fois où on pouvait pour le faire. D'ailleurs, c'est un de ces soirs-là où il rentre chez lui la main meurtrie. Parce qu'il s'est battu. Et donc là, c'est le hasard des tournages qui font qu'on se retrouve à un moment, au bon endroit, au bon moment, on va dire. Je pense que dans tout documentaire, il y a une relation entre le réalisateur et le spectateur, qui est ce que j'appelle le pacte documentaire, qui est la promesse que ce qui est montré au spectateur n'est pas un mensonge. Et que le spectateur n'a au final aucun moyen autre que ce pacte de penser que le réalisateur est sincère, on va dire, quoi. Et donc cette question, elle peut se poser, je pense, pour même des films qui paraissent beaucoup plus naturalistes, quoi. D'ailleurs, il y a des films qu'on pense naturalistes et qu'on voit et qui peuvent être complètement déviés de ce qu'on a réellement sous les yeux. Nous, moi, je peux que vous dire, Bastien est un vrai militant. Il existe. Vous pouvez le rencontrer, vous pouvez aller le voir. C'est un vrai militant, c'est sa vie. Bien sûr, on a opéré dans les manières de tourner habituelles, avec quelques scènes provoquées ou reconstituées sur des petites choses, mais que l'histoire, le contenu de l'histoire que vous avez sous les yeux est bel et bien réel. Mais après, si vous êtes des personnes d'image, donc vous pouvez bien voir qu'il y a des moments où les angoisses, elles sont dans sa tête. Donc on choisit des images où il est en train de réfléchir, mais nous on parle de ses réflexions et on a l'impression d'être au cœur d'un moment qui se passe fort, mais avec des images qui finalement ne sont pas spectaculaires. Il y a quelques moments où on est dans des moments importants, où il y a des choses qui se passent, mais il y a beaucoup de moments ordinaires de vie quotidienne, mais pourtant, grâce à tout ce qu'il nous a raconté et ce qu'on a pu écrire, on passe par plein de phases très différentes. Ça, c'est le moyen du... C'est de passer par l'écrit qui permet ça, quoi.
Vous êtes actuellement en tournée pour présenter le film avec des débats et des rencontres. Quelle est la suite pour vous après ce film, ou est-ce qu'il y aura une suite, ou est-ce que vous allez changer de sujet?
Je pense qu'on va changer de sujet comme d'habitude avec Étienne Chaillou. On aime bien aller voir à des endroits très différents. À la fois, on va, je pense, faire des films sur complètement autre chose, mais on va continuer à rester en relation avec Bastien, parce que déjà, le temps de la sortie du film, pour nous, c'est important de ne pas être très loin, de l'accompagner, parce que le film peut avoir des effets sur sa vie
importants,
et donc ne pas le laisser tomber à ce moment-là. Et aussi, on est curieux de savoir ce qui va devenir dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Comme c'est un jeune qui bouge beaucoup, ça se trouve, dans quelques années, il y aura matière à refaire un film qui ira dans la suite de celui-ci. Pourquoi pas ?
Eh ben, merci beaucoup, Mathias Théry, pour cet entretien.
Merci.
Le film La Cravate est en salle depuis le 5 février. Combien de copies
Cette semaine, on passe à 70 copies. On était à 60, on passe à 70 copies pour la deuxième semaine.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.